aujourd'hui la masterclass de Mélick Ohanian avec Manu Farine.
Bonjour donc et bienvenue en bord de Saône à la Sucrière à Lyon qui accueille France Culture pour une nouvelle masterclass en public. Merci d'être si nombreux. Masterclass dont je rappelle brièvement le principe, examiner au plus près, en tout cas le plus près possible, la fabrique d'une œuvre, des éventuelles premières images, premiers plans, premières idées, alors possible achèvement. Aujourd'hui, ce sera donc en compagnie de Mélick Ohanian, prix Duchamp 2015, Lion d'or, la Biennale de Venise la même année, ça c'était pour l'exposition collective du pavillon arménien. Grand arpenteur de Biennale, Sao Paulo, Lyon, Moscou, Venise, je l'ai déjà dit, un atelier studio entre New York et Paris, et puis sans doute le goût des temps et des espaces parallèles, des temps et des espaces relatifs, élastiques, lointains, le goût des comptes à rebours, des collisions temporelles, le goût aussi des migrations des pratiques, notamment du cinéma vers les cinémas, hein, on en a encore un exemple ici, à la Biennale de Lyon, et puis le goût de la collision des langages, ceux du cinéma, de la science, mention astrophysique, de la philosophie et parfois même de la littérature. Alors, pour cette 14e Biennale d'art contemporain de Lyon, vous présentez Mélick Ohanian ici, à La Sucrière, le film, installation, Borderland, I Walked a Far Peace, pardon pour l'accent, quatre projections, quatre écrans, disposés en carré, au centre duquel circule le spectateur, un petit peu comme une sorte d'explorateur, un carré calé sur le périmètre du toit de votre atelier à New York, quatre écrans et quatre caméras, quatre travelling, chaque élément suivant l'un des quatre bords du toit, comme une sorte de cadrage impossible, et puis sur ce toit, comme une scène de théâtre ou un plateau de tournage, une population, disons, précaire, hein, une dizaine d'hommes et de femmes, des comédiens, réunis le temps d'une nuit pour une adaptation augmentée de plans. Alors ça devient un petit peu compliqué, hein, ce que je raconte, qui est un roman de l'écrivain américain Rudolf Wurlitzer, qui est écrit à la fin des années 60, hein, 69, 70. Qu'est-ce qui, dans ce texte, vous hantait tant au point d'en chercher depuis longtemps, je crois, maintenant, une adaptation possible. Mélick Ohanian.
Ce qui m'a toujours fasciné dans ce roman, que j'ai découvert assez tôt et assez jeune, je ne devais pas avoir plus de 20 ans, et ce qui était fascinant, c'était que les personnages, en dehors de leur identité, qui était donc ce groupe de vagabonds qui allaient se rassembler pour une nuit dans un no man's land et ne faire que passer la nuit avant de repartir alors, vers leur trajectoire, on va les appeler, se nommaient de noms de villes, en fait. Et cette chose-là m'a vraiment toujours fasciné comme une espèce de cartographie humaine. Et puis cette relation au rapport américain de la chose, c'est-à-dire de la relation entre l'identité et le rapport au territoire, c'est-à-dire dans cette Amérique-là qui peut commencer au début des années 20, puisqu'on parle des hobos, quoi, c'est-à-dire des gens qui sont apparus pendant la Grande Dépression américaine,
des vagabonds,
et qui donc partaient. C'était aussi l'apparition des voies ferrées, et donc partaient un peu indifféremment, comme ça, trouver du travail dans d'autres villes, lâchant tout lien d'origine. Voilà. Et donc ce rapport entre l'identité face au territoire et à l'exploration du territoire m'a toujours fasciné. Et c'est vrai que j'ai porté ce livre assez longtemps, en me disant que si un jour j'appréhendais dans mon travail, qui est donc plutôt un travail très conceptuel, dans une approche du cinéma assez singulière, on va dire, la dimension du récit et de la narration, je ne l'avais jamais appréhendée jusqu'alors. Et donc m'est revenu effectivement ce roman à ce propos-là. Et je m'y suis lancé.
Alors il y a dans cette pièce-là, mais pas seulement dans celle-ci, hein, dans d'autres évidemment, on va y revenir, Mélick Ohanian, l'idée de, au fond d'un impossible cadrage, hein, c'est un petit peu par cela que vous commencez d'ailleurs, hein, dans le texte qui ouvre le film, avec cette idée de filmer ce toit par ses quatre bords, par ses quatre bordures, avec l'idée d'une représentation ou d'un cadrage impossible, et cette idée d'impossibilité irrigue une bonne partie de votre œuvre, hein, même l'irrigue depuis le début. Je pense notamment à la représentation de la Minute Universelle qui avait fait l'objet d'une pièce. Je pense encore à une autre pièce qui était la projection d'un film de Peter Watkins, Punishment Park, qui était un film qui était projeté dans le désert sans aucun support, c'est-à-dire sans l'aide d'un écran, et qui du coup venait se dissoudre dans le paysage et rendait évidemment sa vision impossible. Qu'est-ce que serait donc qu'une œuvre qui ne cesse de dire l'impossibilité de la représentation, ou dit autrement, de quoi cette impossibilité serait-elle le symptôme ou le relais d'un rapport au réel particulier peut-être ?
Alors c'est un paradoxe absolu, puisqu'effectivement filmer de bord en bord une terrasse fait qu'on est dans un dispositif de représentation absolument omnivisionnel, c'est-à-dire de tous les points de vue, on voit toujours tout. Et bizarrement, effectivement, par rapport à la diffusion de ces images-là et leur installation et ce dispositif filmique dont il s'agit ici, l'idée de la chose encadrable est la question qui vient qui devient évidente à la pratique de l'espace d'exposition. Cela pour plusieurs raisons. Effectivement, cette mobilité permanente du travelling. Et donc, je le rappelle, pour décrire un peu l'œuvre, il s'agissait de demander aux comédiens mêmes, qui sont donc en charge de l'interprétation de ce récit, de prendre soin également de la mécanique de leur propre représentation. Et donc, est mis en place sur chaque bordure des travelling linéaires qui sont activés par des manivelles à main. Et donc, chaque comédien... placé à chaque coin
du toit,
absolument. Une manivelle activant le déplacement de la caméra sur une des bordures. Et de là, en fait, chaque comédien se rend à un moment donné du récit au coin pour activer ces manivelles. Donc la relation entre l'interprétation et la responsabilité de représentation était absolument une des choses primordiales de ce projet. Tout ça, bien entendu, ne facilite pas les choses, mais en tout cas, elle permettait de m'inclure dans une mise en abîme énoncée par le roman même, en fait, le récit initial de Wurlitzer, qui, quand il écrit son roman, se pose la question en permanence de sa propre fiction et de la réalité même de certains de ses personnages, qui fait apparaître, disparaître, se posant la question s'ils étaient légitimes de quelque chose, s'ils apportaient quelque chose à sa propre fiction. Dans la fiction même, donc dans ce qu'il écrit, la condition de ces vagabonds est effectivement de ne parler que pour survivre. Il y a très peu de raisonnement, en fait, dans ce qu'ils énoncent, mais plutôt une forme voilà, le langage comme souffle, comme réalité même du temps présent. Et donc autour de ce feu autour duquel ils se rassemblent pour passer la nuit, pareil, ils alimentent ce feu en permanence pour survivre à la nuit. Donc l'idée de survivance, comme on peut la nommer, devait aller jusqu'à l'idée même du cinéma. Et donc la condition de ce film, c'est qu'effectivement, si un comédien n'allait pas tourner la manivelle, potentiellement le film n'existerait pas, ne survivrait pas donc à sa propre réalité.
Alors ici, Mélico Agnan, c'est un roman. Il y a eu aussi la possible collision cosmique entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, dans 4 milliards d'années, je rassure tout le monde. Ça, c'était pour une pièce présentée à Beaubourg pour le prix du champ l'an passé. Punishment Park, dont on vient de parler, ce film de Peter Watkins projeté dans un paysage désertique. Qu'est-ce que ça dit de ce qui vous met au fond à l'œuvre, Mélico Agnan, de ce qui déclenche le processus de création chez vous ?
Je dirais un perpétuel questionnement, c'est-à-dire j'ai toujours considéré une œuvre comme un point de réflexion et non pas autre chose, c'est-à-dire je n'ai pas de... C'est le lieu d'une expérience, tout d'abord. Cette expérience, après, comme je le dis souvent, et je considère le spectateur comme un élément très important. Donc je me pose en permanence la question de sa position, de sa possibilité de perception, de sa possibilité d'expérience. Et donc, je le considère aussi comme un dispositif propre de projection. C'est-à-dire que si on vient pratiquer une œuvre et qu'on n'y projette rien, on ne recevra rien.
On a évoqué à l'instant, Mélico Agnan, le travelling, et puis peut-être plus généralement le plan en séquence, cette grande affaire qui vous occupe et qui vous a occupé dans nombre de vos œuvres. C'est à la fois un outil, un mode, mais c'est aussi, j'imagine, une façon d'appréhender le temps, donc au-delà de la fabrique de l'image, de l'outil en lui-même, qu'est-ce que le travelling et surtout le plan séquence mettent en jeu pour vous ?
Alors, paradoxe numéro 2, c'est que en fait, pendant plus de 10 ans, avant tout ça, je suis également monteur.
Je m'adresse à celui qui a commencé comme monteur. Autrement dit, vous avez commencé votre œuvre d'artiste contre ce que vous aviez fait pendant 10 ans.
C'est ça, mais en parallèle en fait. C'est-à-dire que c'était ma manière de gagner ma vie et j'étais fasciné par le montage et la puissance du montage. C'est une chose que j'aime beaucoup. Paradoxalement, dans le champ de l'art, je n'ai produit aucun objet monté. Je n'ai produit que des plans séquences. des rapports à la coexistence, des rapports à la juxtaposition, des rapports à l'espace par le dispositif filmique et le dispositif de projection. Je considère qu'effectivement, ce qui me fascinerait, c'est d'essayer de considérer qu'un moment du réel est un espace-temps autonome. La manière de la représenter devrait essayer de lui ressembler pour qu'effectivement l'œuvre soit considérée comme un espace-temps autonome. Je relierais ça à un souvenir d'enfance, d'avoir pratiqué, ayant grandi à Lyon, j'ai des souvenirs d'avoir pratiqué la maison du premier film, la maison des Frères Lumière, où il y avait des projections régulièrement, et où mon père enfant nous emmenait, et je me souviens en fait entrevoir les films, c'est-à-dire que on n'était jamais là pour le début de la séance souvent, mais en tout cas on arrivait à entrouvrir toutes les portes et donc de vivre des bouts de séquences. Et ces bouts de séquences, pour finir, pour moi, étaient une manière d'appréhender le récit d'une manière assez libre. Je considérais qu'il n'y avait pas de début, qu'il n'y avait pas de fin, mais je pouvais tomber à un moment où la séquence était relativement fascinante pour y être scotché un petit moment. Bref, tous ces rapports-là et cette liberté, en tout cas d'appréhension de l'objet filmique, ont toujours été pour moi une qualité.
Donc il y aurait peut-être davantage quelque chose d'ordre éthique, hein, plutôt que d'ordre formel, hein, que ce choix.
Après, je le rapprochais de la vie, enfin comme on l'écrivait dans les relations et les discussions que j'ai eues avec Jean-Christophe Royoux dans différents catalogues qu'on a produits ensemble ou différents moments qu'on aurait partagés. La question du travelling est plutôt la question de la présentation du monde, plus qu'une question de représentation. Donc ces traversées, je les commence à Liverpool par exemple, dans la zone portuaire des docks de Liverpool en 97, juste après le dernier conflit des dockers, donc le plus gros conflit social qui énonçait un peu la fin des revendications sociales et d'une certaine justice sociale, comme on pouvait l'entendre à la fin du XXe siècle. Et donc j'avais traversé cette zone deux ou trois ans avant, je sais plus trop bien, puisque ma sœur vivait en Angleterre, et donc lors d'une balade, j'avais été impressionné en fait par cette zone portuaire complètement déserte. Elle était pour moi le symbole de deux choses, potentiellement une chose qui s'était passée ici et que je n'avais pas vue, ou potentiellement elle était aussi le point de départ d'un devenir que je ne pouvais maîtriser. Donc j'avais décidé d'entreprendre un travelling qui allait traverser les 12 kilomètres de cette zone portuaire, complètement vide, vidée de son activité, qui quand même rassemblait toutes les grandes notions du XXe siècle sur l'exportation, par les voies maritimes. Donc c'était le grand lieu de l'échange commercial du monde. Et donc on arrivait à une fin de quelque chose. Mais cette fin-là était aussi potentiellement le départ de quelque chose. À ce moment-là, j'étais assez fasciné par des lectures des notions nommées par Gilles Deleuze, sur la notion du trop tard et du trop tôt. Considérant que le trop tard était une dimension du temps lui-même, et donc voilà, j'avais décidé d'essayer de représenter. Donc j'avais fait deux travaux en parallèle. Il y avait ce travelling de Liverpool d'un côté, et de l'autre côté, il y avait une installation vidéo que je tournais dans une émission de télé de M6 à l'époque, d'un hit parade, qui était donc un plan séquence d'une heure de la durée de l'émission, où il n'y avait plus personne sur le plateau et où je jouais en fait des lumières et du dispositif lumineux de cette émission de télé, ce que je nommais le trop tôt. Donc l'image de Liverpool était plutôt à considérer comme le trop tard, une image du trop tard, et le hit, donc comme s'appelait cette pièce, était une image du trop tôt.
Le trop tard que vous avez mis en jeu aussi dans une horloge, par ailleurs. C'est pas tout à fait le trop tard, c'est-à-dire que c'est une horloge plus lente, en tout cas, qui est ajustée sur le temps martien.
C'est ça, puisqu'il y a effectivement une analogie. La planète Mars a été un des sujets que j'ai traité dans différentes pièces, pour plusieurs raisons. Je me rappelle d'une pièce de 2003 notamment, qui se tourne le 28 août 2003, pendant une nuit astronomiquement historique, c'est-à-dire un événement qu'on appelle l'opposition de Mars, le Soleil et la Terre, qui a donc lieu que tous les 72 000 ans. Et donc, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le rapport occidental en fait au futur. C'est-à-dire que, bizarrement, le futur, et si on considère ces explorations extraterrestres et tous ces programmes d'exploration extraterrestre, si on considère qu'effectivement tout ça serait une idée du futur, bizarrement l'objet le plus récurrent se rapproche de notre passé, puisque Mars est l'équivalent de la Terre dans 500 millions d'années. Donc ce paradoxe toujours m'intéressait. De là, effectivement, l'analogie entre Mars et la Terre est surprenante, puisque la rotation de Mars sur elle-même, la révolution de Mars sur elle-même, pardon, est de l'ordre de 24 heures et 38 minutes. Donc il n'y a que 38 minutes d'écart entre la révolution de la Terre, la rotation de la Terre sur elle-même et la rotation de Mars sur elle-même. Et donc j'avais produit cette horloge qui produit le temps relatif du temps martien sur Terre. C'est-à-dire que c'est une horloge qui, très lentement, durant la journée, va perdre 38 minutes. Voilà. Donc c'est pas tout à fait le trop tard, mais c'est effectivement l'histoire d'un retard potentiel.
Alors, histoire toujours, Mélico Agnan, il y a 12 ans, en 2005, vous participiez déjà à cette Biennale de Lyon. Lyon, vous êtes né, hein, je le rappelle. La pièce qui avait marqué à l'époque s'appelait « Seven Minutes Before ». Là, c'était 7 écrans juxtaposés, 7 récits fragmentés en 7 longs plans séquences de 22 minutes, 7 points de vue qui couraient tous en fait vers un même événement, qui était l'explosion d'un camion. Et en 2005, la Biennale de Lyon prenait acte, d'une certaine façon, d'une génération qui était préoccupée à la fois par le temps, par la durée de l'exposition, par le recours aux moyens et aux enjeux du cinéma, bientôt également par les sciences, une génération qu'on trouve déjà à l'ouverture du Palais de Tokyo en 2002. Aujourd'hui, donc, disons 15 ans après, un peu plus de 15 ans après, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir ou d'avoir appartenu à une génération avec ses outils et ses enjeux communs ou propres ?
Certainement, ce serait sot de dire l'inverse, mais on peut pour une fois se poser la question du pourquoi. Et effectivement, on est une génération en tout cas pour ma part, je vais parler en mon nom, mais largement obsédée par la notion de durée. Alors, peut-être, il y a beaucoup de pistes pour peut-être essayer d'expliquer ça. Je vais le prendre sous l'aspect du médium que je pratique, et je pense qu'en tout cas, à part le cinéma, ce serait bon. Je suis embarrassé. Bah, je réponds oui, en fait.
Ça va pas me suffire.
Désolé.
Si, pour le coup, cette question de la durée, est effectivement, et je rappelle que cette fameuse édition de la Biennale de Lyon en 2005 s'appelait l'expérience de la durée.
Absolument.
En l'occurrence, il est intéressant de noter que nous sommes dans les mondes flottants aujourd'hui et que vous vous trouvez dans ces deux expositions-là, dans ces deux biennales-là. Qu'est-ce que vous étiez allés chercher tous comme enjeu, comme redéfinition, comme réexamen en ayant recours à cette notion de durée ?
Bon, alors je vais parler un peu plus précisément de la pièce que je montrais à l'époque, Seven Minutes Before, qui était un peu plus qu'une notion de durée, une espèce de relation coexistante en fait à des durées. Et tout ça faisait que le film à percevoir était donc relativement complexe à percevoir, puisqu'il se basait sur l'idée qu'effectivement une idée qui vient de la neuroscience, une observation de la neuroscience et de la limite du cerveau et de la capacité du cerveau à se souvenir dans un même temps de 5 images simultanément. Mais que notre cerveau n'aurait pas la capacité jusqu'à présent de mémoriser plus de 5 images dans un même temps. Ce qui m'a invité à considérer un dispositif avec 7 images en me disant qu'effectivement, de toute manière, la durée dont on ne pourrait pas se souvenir était aussi importante que la durée qu'on voyait, qu'on percevait. Donc dans ces rapports-là, voilà, j'ai mis ça en place dans le Vercors, dans la région, à côté d'ici. Et les éléments étaient espacés de plus de 2 km, on va dire, physiquement dans l'espace. Sauf que dans l'espace d'exposition, ces 2 km n'avaient pas d'espace, puisqu'il n'était que la distance entre le premier écran et le 7e écran. Et tous ces temps-là, toutes ces trajectoires, qui étaient donc filmées en plan séquence, allaient converger vers un point précis de l'espace, où toutes les caméras allaient pour une seule fois filmer toute la même chose au même moment. En dehors de ça, en définitive, il y avait une absolue autonomie des représentations, des traversées, des récits potentiels, bien sûr. Voilà. Donc c'était plus que la durée, j'ai envie de dire que la notion de coexistence est une notion qui à ce moment-là commence à vraiment m'intéresser beaucoup, jusqu'à cette exposition donc en 2008 que je fais à Paris qui s'appelle From the Voice to the End, qui est l'exposition simultanée de 15 expositions dans un même temps.
À l'échelle de la ville. Donc, en fait, une exposition à l'échelle de la ville. On n'avait pas tout à fait répondu, mais les Cohagnons, à la question de la génération et de nos camarades.
Si je peux me permettre, c'est que je suppose que ce n'est pas à moi de le faire. C'est-à-dire que ces idées-là, chapeautantes, effectivement, d'une génération, ce n'est pas les sujets mêmes qui peuvent en parler, mais potentiellement...
Vous avez un petit peu de recul, maintenant.
C'est pas faux, mais j'ai aussi...
Vous embarrasse.
Voilà, ça m'embarrasse.
Alors l'artiste Bertrand Lavier, qui se prêtait au même exercice de la masterclass que vous il y a peu, racontait comment lui, à la fin des années 60, hein, 68-69, alors qu'il avait 20 ans, le monde de l'art lui permettait, ou c'était probablement même le seul monde hein, qui lui permettait de réaliser ses rêves, et que probablement, s'il avait 20 ans aujourd'hui, il ne ferait plus le choix de l'art. Est-ce que vous comprenez cet écart ?
Oui, je comprends cet écart, enfin, parce qu'il appartient à quelqu'un... Je ne suis pas spécialiste, mais je connais le travail et de quelle génération il parle et de quel moment socio-culturel, enfin politique et culturel il a traversé.
Alors vous n'êtes pas du tout de la même génération, c'est parce que je voulais dire. Mais néanmoins, est-ce que c'est un écart que vous avez pu percevoir donc entre le moment où vous démarrez, c'est-à-dire à peu près au milieu des années 90, et aujourd'hui ? Est-ce que vous feriez le même choix aujourd'hui ?
Je pense que je n'aurais pas d'autre choix possible, mais c'est très personnel par rapport à mon choix d'existence. Donc, c'est pas le contexte qui fait l'artiste, mais c'est potentiellement l'artiste qui peut penser le contexte et potentiellement aussi modifier et mettre en perspective quelques possibilités pour ce contexte. Donc, je me poserai pas la question comme ça. Je vois l'évolution de ce monde, ce milieu. C'est une interrogation permanente pour moi tous les jours et que j'essaye d'inclure dans les réflexions et les propositions que j'essaye de faire. L'écart est effectivement énorme. Dans cette époque charnière, on est une génération charnière de quelque chose. On est la liaison de deux siècles, d'une fin de siècle qui avait été principalement occupée par une dimension qu'on va appeler universelle ou une envie d'universalité post-Seconde Guerre mondiale. Mais je considère aussi qu'on a grandi dans une espèce de poche et de moments absolument... étrange parce qu'il était rempli de solidarité. On va dire que l'homme s'était fait peur suffisamment pour ouvrir des dimensions humaines passionnantes. J'ai eu la chance d'avoir 20 ans à une époque où l'idée du multiculturel, par exemple, était primordiale. On était les premières générations mélangées, mixées, post-coloniales d'un côté, post-exode de l'autre, dans une France généreuse, passionnante, intellectuellement développée. Voilà, je pense que cette France, elle a changé, certes. Si on me demande si j'apprécie, je peux dire haut et fort que j'apprécie pas du tout, mais c'est qu'un petit point de vue. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enrayées dans des idées qui étaient foncièrement très fortes et très convaincantes.
Alors on rembobine toujours, Mélie Cohagnan. Donc vous l'avez dit, vous avez été monteur un temps, mais c'est bien par les Beaux-Arts que vous en passez, hein, Montpellier d'abord, puis Lyon. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous en attendiez ?
Du matériel. Mais sincèrement, c'est-à-dire que j'avais aucune attente. Bon, c'était... Moi, j'avais une... Bon, j'ai commencé... J'ai un père photographe, donc j'ai grandi, j'ai un grand frère qui réalisait des films. J'étais proche de la photographie et des images mouvantes plus que d'une autre type de pratique dans l'art. Ce qui faisait que la question du matériel a toujours été une question. Et effectivement, à appréhender les Beaux-Arts, enfin, ça me paraissait une évidence que d'aller aux Beaux-Arts à la sortie du premier chapitre de mes études. Mais sincèrement, je choisissais les écoles par la quantité potentielle de matériel qu'ils avaient pour pouvoir réaliser des choses. Après, ça ne veut pas dire du tout que j'ai rencontré personne et qu'il n'y a rien qui m'a... Mais vraiment, la première question, c'était le matériel.
Quand vous dites une évidence, est-ce que ça veut dire que le terme de vocation pourrait évoquer quelque chose pour vous ?
J'aime pas beaucoup ce terme.
Je m'en doutais un peu.
Je me suis pas posé la question. Ça a été très naturellement que je...
Est-ce qu'il y a un moment où vous voulez te poser la question ?
J'ai envie de dire, ça me fait penser à quel point je pouvais être naïf, en fait. C'est-à-dire que je pensais qu'il y avait une école où j'allais trouver que des gens comme moi. Mais voilà, donc j'avais identifié le lieu, effectivement, socialement, où j'avais envie d'être. Il n'y avait pas de doute.
C'était quoi, des gens comme vous ?
Des drôles d'oiseaux. Non, des gens qui, bon, je sais pas, voilà, on est des personnes tout simplement habitées d'une capacité à développer un univers propre et singulier qu'on ne lâchera pas et qu'il est la condition de notre existence. Donc, on cherche des zones où effectivement on est un peu protégé pour pouvoir développer cette manière de penser, cette manière de faire. Voilà.
Très vite, j'imagine tout de suite, même d'emblée, hein, vous l'avez un petit peu évoqué, Malik Ohanian, c'est le film qui s'impose, hein, l'image, la photographie, un médium qui va vous permettre de réfléchir autant jusque dans ses modalités d'exposition. Ça veut dire une pratique à compétences collectives, hein, on va y revenir évidemment. Ça veut dire aussi une pratique avec ses outils techniques, vous l'avez évoqué. Ce rapport à la technique, est-ce qu'il est d'abord allé chercher du côté du modèle paternel ? Vous avez évoqué hein, Raja Kohanian, votre père, photographe, vous qui avez porté les trépieds, les objectifs, le matériel, les sacoches de votre père pendant quelques années, j'imagine. Hein.
Et heureusement, pas que. C'était la condition à pouvoir entendre certaines choses, d'avoir une relation confidente, d'avoir accès à d'autres choses encore. Mais effectivement, ça passait par le fait d'assumer un peu les outils. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une appréhension de l'expression par rapport à un outil. Et cet outil, je l'ai toujours inclus dans la réflexion d'abord. Donc j'ai toujours cherché au travers de chacune des pièces à essayer de comprendre l'époque que je traversais, son évolution, sa technologie. Ce qui ne m'empêche pas, et au contraire, de prendre le contre-pied de tout ça une fois que j'aurais compris l'outil avec lequel je voulais travailler et d'y réinsérer une dimension préhistorique ou pré-technologique dans la pratique que je mets en œuvre dans un deuxième temps.
Qui vous mettrait, Malik Ohanian, à l'abri de la tentation de la séduction par la technique, hein, parce que j'imagine que c'est une question qui se pose aussi.
Comme je dis souvent, en fait, je laisse toujours monter l'esthétique d'une œuvre par la condition même que j'ai mis en place conceptuellement. C'est-à-dire, je ne canalise pas une esthétique, je la laisse monter, je la laisse advenir en fait de la condition même de sa fabrication. Bien entendu, à force d'avoir fait plusieurs films, il y a une esthétique globale qui commence à se dessiner, mais elle n'est
pas... Ça vous ennuie ?
Pas du tout. Enfin, c'est une vraie question. C'est-à-dire que j'ai toujours lutté pour pas produire de style. Si j'avais compris une chose aux Beaux-Arts, c'était ça. C'est qu'en fait, je n'aimerais pas produire du style. Donc, je n'aimerais pas trouver quelque chose pour le reproduire. Mais par contre, je chercherais toujours à faire une chose et de la considérer comme le point de départ d'autre chose. Et donc, de renouveler les conditions d'une autre expérience, ayant assimilé ce que j'avais pu comprendre avec une première expérience. Donc, effectivement, la lutte contre le style, c'est peut-être ça a appartenu à notre génération, mais je pense pas, ça, pas simplement. Mais en tout cas, oui, ça a toujours été une chose face à laquelle j'ai lutté. Très souvent, une fois que j'avais fait Seven Minutes Before, le film sur cet écran, certains m'ont dit, tu as mis le doigt sur quelque chose. Très bien, si j'ai mis le doigt sur quelque chose, ma seule envie, c'est de mettre le doigt ailleurs.
Alors, puisqu'on a ouvert le chapitre familial, vous êtes d'origine arménienne, Malik Ohanian, grandi loin du clan, hein, dites-vous, une histoire qui s'est longtemps faite discrète dans votre œuvre. Et puis il y a eu ce projet de monument à Genève qui n'a finalement pas pu être montré hein, pour des raisons politiques, que vous avez finalement retravaillé dans une sorte d'anti-monument pour Venise. Cette résidence d'artiste en Arménie que vous avez imaginée, qui obéit à une sorte de vertueux principe de non-productivité. Et puis il y a cette pièce, 3451 larmes de béton, hein, qui sont des larmes comme précipitées au sol, qui sont autant de larmes que de kilomètres qui séparent Erevan, donc la capitale de l'Arménie, d'où sont venus vos grands-parents, de votre propre atelier à Paris. Et je me demandais à quel moment cette histoire-là s'était invitée dans votre œuvre, ou plutôt qu'est-ce qui l'avait tant retardée, et s'il y avait eu un moment particulier où cette histoire vous avait été nécessaire.
Alors là, on rentre dans une cuisine, dans la cuisine.
On est là pour ça.
Voilà. J'ai pas de souvenir précis, en fait, d'un besoin. Ça s'est un peu posé comme une évidence. Il y a eu des moments, effectivement, où j'ai pris de la distance face à ça, où je n'avais pas de propos à tenir. Et puis, tout d'un coup, effectivement, la vie avançant, la pratique des choses avançant, les territoires, les explorations... ça, c'était pas une question. C'était une chose qui est sortie naturellement à un moment donné. J'avais conscience, par contre, que là, je touchais à une dimension qui pouvait être un écueil par moment. C'est-à-dire que tant que je ne trouverais pas une forme d'universel dans ma propre existence, enfin, par rapport à ces problématiques-là, je pense que ça n'avait aucun intérêt de les rendre publiques. Donc j'ai cherché effectivement, c'est peut-être là que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était peut-être largement digéré sur certaines dimensions qui faisaient que je pouvais me référer à ça sans que je trouve ça encombrant.
Vous écoutez France Culture, nous sommes toujours à la Sucrière à Lyon pour une masterclass en public avec vous, Mehdi Kohanian. On parlait famille à l'instant, autre famille, celle avec laquelle vous travaillez depuis plus de 20 ans, on peut dire comme ça, 25. Mmh. Qu'est-ce que c'est que le studio Mehdi Kohanian, au fond, comment est-ce que ça s'organise, cette affaire?
Alors, c'est absolument un non-studio, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'endroit, il n'a pas de lieu, déjà. Il est plutôt un état d'esprit, et effectivement, cet état d'esprit est reconduit très volontiers avec le même groupe de personnes depuis un bon moment. Pour les plus lointains, on va parler d'une relation de 25 à 30 ans. Et je parle d'un tout petit groupe qui est fait de 4 personnes ou 5 personnes maximum. Mais il s'avère qu'effectivement, c'est devenu aussi une manière de se promener dans le monde, d'avoir une relation relativement singulière face au monde. Puisque d'arriver dans une ville, je pense au projet de Santiago du Chili, par exemple, quand on débarque dans une ville et qu'on appréhende un pays qu'on connaît pas par une idée artistique, forcément, il nous restera en mémoire une réelle singularité de pratique et voilà. Donc, je sais pas, moi, j'ai un plaisir de travailler avec ce groupe de personnes depuis longtemps. J'espère que ça reste réciproque. Je dis ça parce qu'on revient d'une aventure pas facile, donc comme tout retour, ben voilà, il y aura un petit temps de digestion pour les uns et pour les autres, mais je suppose qu'on aura toujours, en tout cas pour un temps encore, l'envie d'aller explorer ailleurs.
Un peu comme un groupe de rock, hein. Au fond, de quelle autre compétence est-ce que vous avez besoin? Justement, puisqu'on parle de studio, de non-studio, si je vous suis.
C'est pas un désir, le non-lieu, hein. C'est plutôt la réalité d'un monde qui est pas facile. Je vis à Paris ou à New York, plutôt à Paris en ce moment. Voilà, je sais pas, je ne trouve pas 300 mètres carrés dans une ville comme Paris aujourd'hui. J'en ai pas les moyens, tout simplement. Et effectivement, j'aurais besoin de 300 mètres carrés pour travailler aujourd'hui, puisque je n'ai pas la chance de vivre avec une seule de mes œuvres produites. C'est pas que c'est un grand plaisir, c'est pas un grand rêve de ma part, c'est une réalité. C'est-à-dire que j'ai des œuvres qui sont emballées dans des boîtes au fin fond des stockages des galeries avec qui je travaille ou qui sont dans des collections. Enfin, tout ça, je veux juste évoquer le fait de la distance, en fait, entre l'objet produit et la réalité d'une vie. Et donc, voilà, j'aurai le plaisir aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, d'avoir un espace où il y ait quelques pièces qui traînent.
Alors,
et pas que les miennes, d'ailleurs.
Contrainte ou choix, justement, qu'est-ce que ça change à la production, à proprement parler, justement, que de travailler dans ce non-lieu, d'une certaine façon, Mehdi Kohanian?
À la fois, j'y prends un grand plaisir, parce que l'errance ou le fait de ne pas avoir d'espace, justement, met en place une pratique et une manière de travailler vraiment que j'apprécie en définitive, qui est devenue presque une condition à ma manière de réfléchir. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils incroyables qui permettent tout ça aisément.
Ça veut dire concrètement, comment est-ce que vous travaillez tous ensemble ?
Bah, très souvent, en fait, la première question que je me pose quand j'appréhende un projet, c'est d'en produire les outils. Les outils qui permettront aux uns et aux autres d'échanger, de devancer les problématiques et de pouvoir y pallier très rapidement. Et c'est vrai que je travaille toujours dans des timings assez serrés, pour plein de raisons différentes, mais en tout cas, c'est une réalité. Effectivement, j'ai toujours eu conscience que l'outil était la première chose à fabriquer avant de fabriquer une forme.
Par exemple ?
Par exemple, je sais pas, là, dans le dernier projet que j'ai mis en place, la première chose était d'établir un réseau entre tout le monde avec un serveur qui permettait d'ordonner toutes les choses, qu'elles soient consultables de tout le temps, à tous les moments, puisque je savais que tout le monde allait bouger, personne allait être dans le même endroit, mais qu'il fallait rester relié. Donc, la chance de cette époque-là, si on la prend un peu au sérieux et qu'on essaye de la comprendre et de pas se laisser dominer par, donc c'est-à-dire d'aller apprendre ce que je nomme le langage invisible de tout ça, ça permet pas mal de choses et ça nous permet une sacrée autonomie et d'aller et puis d'autre part, par exemple sur ce projet qui se passait entre la France et l'Amérique dans sa mise en place, et j'ai pas hésité à travailler avec les deux fuseaux horaires, c'est-à-dire que quand les uns se couchent, les autres se lèvent, donc ça fait des doubles journées de travail.
Alors les uns, les autres, tout le monde, hein, tout ça est assez flottant dans ce que vous dites, Mélie Cohanian. Pour autant, qui sont tous ces gens? Comment les rôles sont distribués?
Je vais les nommer tout simplement déjà. Donc il y a une personne que j'ai rencontrée quand j'avais 22 ans et que je faisais mon premier court-métrage pour mon diplôme en fait des Beaux-Arts à l'époque, qui s'appelle Jean-Pierre Fégère, qui était à l'école de cinéma de Lyon à ce moment-là, et on s'est rencontrés par une association de deux écoles qui permettait, l'école de cinéma donnant les moyens aux Beaux-Arts de pallier à certains manques sur les outils, et de là est née une relation d'amitié et de pratique qui n'a pas bougé. De l'autre côté, en arrière-plan, il y a un autre ami que j'ai rencontré aux Beaux-Arts de Montpellier un peu avant, qui s'appelle Bertrand Gozol, qui lui aussi est artiste et qui a toujours été très présent dans pas directement dans le travail, mais en tout cas dans sa mise en place par moment. C'est une relation qui continue encore aujourd'hui et qui est très intense par les différences en fait.
Qui interviennent comment
C'est-à-dire.
Dans l'élaboration d'un projet, par exemple.
Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion en amont. J'arrive avec une idée qui est relativement définie et qui a sa forme. Maintenant, il faut aller la faire, il faut aller le pratiquer, il faut aller l'arracher au réel dans lequel est posée la chose. Donc tout le monde a des capacités différentes. Il y en a qui sont plus doués mécaniquement, il y en a qui sont plus doués esthétiquement. Il y en a, je sais pas, c'est une chouette famille et des qualités vraiment différentes. Et si je peux nommer une chose importante qui me semble, qui pourrait peut-être la définir, c'est la capacité de s'entraider à tous les niveaux, tout le temps. C'est-à-dire que, exemple simple, on n'a pas toujours l'économie de faire un projet. On en a des bouts, mais c'est une équipe où on ne parle pas d'argent d'abord, on parlera d'argent après. Donc c'est pas la condition de monter dans le bateau. La condition de monter dans le bateau, c'est un rapport au monde. Il y a toujours le minimum qu'il faut, mais à partir du moment où effectivement on a de quoi manger, on a de quoi voyager, on commence à réfléchir à partir de là. La question économique, on la néglige pas, elle est là, elle est réelle. Et on en jongle, on va dire, communément. J'ai pas toujours le meilleur rôle pour ça, mais ma foi, j'assume.
Vous évoquiez à l'instant le travail en amont, qui est, j'imagine, probablement la seule étape solitaire de l'élaboration d'un travail. Je ne sais pas d'ailleurs si elle l'est, solitaire. Ce moment-là de travail en amont, d'élaboration d'un projet, et même d'élaboration des outils nécessaires au projet, ça passe par le dessin, ça passe par des maquettes, ça passe par la main, malgré tout, ça passe par l'écrit. Mélie Cohanian.
Je passe beaucoup de temps sur les machines observations techniques que j'ai fait assez tôt de ces outils. En fait, j'ai jamais lâché, donc j'ai toujours un peu les mains dedans. Et effectivement, avec ces différents logiciels aujourd'hui, j'ai un atelier avec 4 ou 5 ordinateurs, j'ai toujours 2 ou 3 machines avec moi, je suis toujours prêt à mettre les mains dedans, on va dire, parce que c'est le lieu de réflexion aussi de pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est dans cette pratique-là, en fait, que je crée des zones de réflexion. Je dissocie par exemple les moments de lecture ou les moments de recherche purement intellectuelle et les moments de la pratique, et c'est vrai que c'est en faisant que je pense.
Et à quel moment du processus de création intervient la question de son exposition?
Au tout début. Au tout début, c'est-à-dire que... Alors c'est marrant, parce que ça me fait penser que très tôt, je ne considérais jamais l'exposition comme un besoin. Mais par contre, que la réalité de la pièce était absolument essentielle. Donc je ne connaissais pas beaucoup de lieux d'expo, je produisais des pièces, mais je ne pensais pas à leur exposition, ça n'a jamais été la condition. Et puis après, tout ça s'est inversé, parce qu'au bout d'un moment, les choses sont allées beaucoup plus vite pour moi, et j'étais invité dans beaucoup de lieux, et heureusement que j'avais une réflexion en amont qui était à peu près prête, on va dire, et des conceptions déjà définies qui m'ont permis de répondre à un peu toutes les sollicitations que j'ai eues au bout d'un moment, et qui n'étaient pas faciles à gérer si j'avais dû devoir réfléchir juste en amont d'une exposition.
Quand vous dites que vous étiez prêt, ou un petit peu prêt, Mélie Cohagnan, jusqu'à quand ou jusqu'où est-on un jeune artiste, hein?
Jusqu'au bout.
Vous êtes sûr?
Je pense. Non, sincèrement.
Je le dis moins par rapport à vous que par rapport d'ailleurs au monde social, économique, politique de l'art. Hein,
c'est ça, je parle de l'intérieur quand je dis ça. Après, le monde est beaucoup plus cruel que nous-mêmes, donc non, on est considéré.
Tu ne voulais pas l'être.
Hein. Ouais, j'entends bien. Enfin, j'espère. Non, mais je l'entends bien. Mais effectivement, non, on est considéré. Je sais pas, moi, si je cherche socialement à savoir où j'en serais, je suis dans le deuxième chapitre, le plus douloureux d'une carrière artistique. C'est celui, effectivement, où on se sent d'une maturité absolue de prendre des espaces et d'exprimer des choses avec une cohérence élaborée. On arrive à un moment où on ne trouve pas un espace pour exposer de cette manière-là. Donc, et encore une fois, je ne vais pas me plaindre puisque je m'en sors plutôt bien, mais je pense à mes copains artistes de ma génération, et il y en a qui ne s'en sortent pas du tout aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment décevant parce que c'est long de mettre en place un travail, c'est long d'en mesurer tous les enjeux, toutes les possibilités. Enfin voilà, qu'il y a un manque en tout cas à ce moment-là, et qu'on est un peu la génération qui subit son sort. Je pense que la génération d'avant a eu plus de chance dans ce moment-là, et je pense que nous, on n'est pas très bien servis, non.
Ça tient à quoi ?
À une politique, tout simplement, à une politique culturelle qui est en pleine mutation. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un spécimen de l'espace public de l'art. Enfin, je suis né de l'école publique, je suis né des Beaux-Arts, des écoles nationales. J'ai grandi grâce à des relais, à des gens que j'ai rencontrés qui m'ont tendu la main, qui venaient du ministère, des gens qui avaient une mission d'essayer de développer politiquement et culturellement un pays. Tout ça a effectivement viré, on va dire, a pris une autre tournure, pour des raisons voilà, dont on ne va pas parler ici, mais qui sont simples à comprendre à force. Et donc on est dans un moment de profond mouvement sociologique du rapport à la culture. Et donc, voilà.
Alors, j'ai cru comprendre, Mélie Cohagnan, que la pièce ici, à la Sucrière, était arrivée, terminée, in extremis, juste, hein, à l'heure. On parlait trop tôt, trop tard tout à l'heure, mais en tout cas, elle était à l'heure, juste avant l'ouverture. Comment se résout ou se pose la question de l'achèvement d'une pièce pour vous ? Question aiguë, s'il en est, pour quelqu'un qui a été monteur.
On va dire que le moment, en fait, du vernissage est notre espèce de point d'entrée, du moment où, effectivement, l'œuvre qu'on aura protégé, qu'on aura fabriqué, qui aura été le lieu de plein de choses, de plein d'aventures, va changer de monde, en fait, va être délivré au monde. Et sans parler du moment d'une dépossession, parce que pour moi, ça ne ressemble pas du tout à ça. Au contraire, c'est le premier point de rencontre avec le monde. Et si on fait ses œuvres, en tout cas, c'est ce que je semble apprécier, en fait, dans tout ça, c'est qu'effectivement... tout ça est apporté pour essayer de dialoguer avec un monde. Et ce monde-là, dans une exposition, a toujours une date et une heure d'ouverture que j'ai toujours respectée, bizarrement. Mais je la respecterai aussi aux conditions de l'état de l'œuvre. C'est-à-dire que j'ai ouvert des expositions. Je me rappelle d'une exposition en 2002 chez Chantal Crouzel, qui était ma première exposition chez Chantal Crouzel.
Chez votre galerie à Paris ?
C'est ça. Donc il y avait pas mal d'enjeux a priori, et donc de se sentir potentiellement en retard de quelque chose n'était pas forcément très heureux, on va dire. Mais Mais pour moi, l'œuvre domine. Si elle n'est pas finie, si elle est encore ouverte de quelque chose, ouvrons, enfin, laissons ouvert la chose, c'est pas un problème. Elle se refermera dans son propre temps, au moment voulu. Donc j'ai exposé cette pièce qui ne pouvait pas se refermer, on va dire, ce jour-là, qui a dû attendre 48 heures de plus pour se refermer sur elle-même. Mais ça m'a posé aucun problème.
Qu'est-ce que c'était que cette pièce ?
C'était une pièce qui s'appelle Switch Off, qui a un très gros caisson lumineux qui fait à peu près 4 mètres par 2 mètres, qui est fait d'une plaque de verre où j'utilisais l'image de la NASA, de la représentation de la planète vue de nuit par la NASA en 2002, et donc qui était faite de deux circuits électriques. Un qui éclairait donc la planète vue de nuit et un bouton commutateur qui était dans l'espace d'exposition. Et quand on switchait donc sur ce bouton, on apercevait simplement enfin la représentation d'une seule constellation en fait de la Voie lactée, qui était une des constellations les plus éloignées du système solaire, qui s'appelle la constellation de l'atelier du sculpteur. Et donc, faisant cette grande plaque de verre, en collaboration avec un ami artiste d'ailleurs, je devais recevoir un film imprimé, qui devait être donc transparent sur les points lumineux et noir à l'extérieur. Et quand le film arrive, on s'aperçoit que le film n'est pas transparent, mais blanc diffusant. Ce qui fait qu'en fait, l'image ne pouvait pas disparaître, puisque la blancheur en fait de ces points restait permanente. Du coup, on a entrepris à la dernière minute, donc il y a 2 jours de l'ouverture, de redessiner tout à la main. Donc on a redessiné la planète à la main avec un système de pochoir qu'on a bombé après. Et il fallait un temps de séchage pour cette énorme vitrine de 4 mètres par 2 avant d'être soulevée et mise dans le caisson lumineux. Donc j'ai effectivement ouvert l'exposition avec d'un côté la plaque de verre en train de sécher, de l'autre côté le caisson très ouvert qui attendait quelque chose potentiellement. Enfin voilà. Et donc pour reprendre ce qui se passerait ici peut-être, j'arrive effectivement à in extremis puisqu'il y a à peine une semaine encore j'étais presque en tournage et le montage s'est enchaîné et je suis arrivé avec les disques durs avec tous ces films que dimanche matin. Donc 24 heures avant le preview de l'exposition. Et j'arrive avec une version que je nomme Variation 1 et que je vais conserver comme un point historique de cette aventure et de cette expérience. Voilà, et ça me pose pas beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement je vais pouvoir à partir de maintenant retravailler la bande sonore, appuyer sur des choses que j'aimerais développer. Et tout ça met en place ce que je nomme des variations.
Alors, j'imagine que c'est pas la première fois ni la dernière fois que ça va arriver, c'est-à-dire l'idée de partir d'une idée A et d'arriver au fond à une réalisation B, ça doit arriver presque tout le temps, je suppose, Mélie Cohagnan. Vos pièces sont amenées à être exposées, réexposées, alors vous préférez le terme de repositionner pour certaines, avec des changements parfois profonds ou alors avec d'autres variations, justement, telles que vous venez de le dire. Qu'est-ce qui se rejoue dans ce que vous appelez, vous, le repositionnement de ces œuvres, hein? Est-ce que c'est finalement arrivé à la réalisation A, celle qui était prévue? Est-ce qu'il y aurait une idée de progrès? Est-ce qu'il y aurait une idée d'amélioration?
Pas tant que ça, on va dire que je pars toujours de protocoles conceptuels tellement rigides qu'il y a peu de latitude. Par contre, dans l'espace d'exposition, on a la chance, dans le milieu de l'art, effectivement, d'avoir affaire à des bâtiments, des architectures qui sont différentes. Et je me suis toujours dit qu'effectivement, pour une pièce, il y aurait toujours un lieu qui sera le bon lieu. Et c'est pas forcément le premier. Donc c'est pas la condition même de l'exposition, mais potentiellement une chance d'un jour trouver un lieu où l'œuvre rentrera d'une certaine manière en résonance et qui fera dire qu'effectivement qu'est-ce que c'était bien là et que à partir de là je pourrais reposer les conditions que j'ai trouvées excellentes pour l'exposition d'une œuvre, mais c'est juste pas possible, c'est juste absurde. Donc voilà, c'est aussi comment l'œuvre va se fondre en fait à la réalité même et à l'analyse de l'espace d'exposition qu'on vous propose. Il y a un exemple ici qui est très précis, c'est la colonne du milieu de l'espace où j'expose Borderland, qui pourrait paraître comme un problème. Ça l'a été.
Donc il y a donc ce ouais. Carré hein, qui est bordé par les 4 écrans et au milieu de cet espace,
Il y a une colonne.
Massive.
Elle est massive, elle est bien là. Et effectivement, elle pourrait paraître sur le premier plan, quand on reçoit le premier plan d'exposition des espaces où pouvait se passer la chose, on la voit, cette colonne. Et ben, au lieu de lutter, on en joue. Et bizarrement, elle devient aujourd'hui, pour moi, absolument fondamentale dans la relation de l'œuvre avec l'architecture. Pourquoi ? Parce que ce dispositif invite, dans la question à l'omnivision, pose la question de où va se positionner le spectateur pour pouvoir regarder l'œuvre. Et la sensation première du spectateur serait de vouloir être à la place de cette colonne, et que cette colonne, signifiant le milieu en fait de la chose, que potentiellement, si le spectateur se trouvait à la place de cette colonne, il verrait mieux la chose, mais absolument pas. C'est pas ça l'histoire. Donc cette colonne est, pour finir, pour moi, le grand partenaire de ce dispositif, et je l'aime beaucoup. Et voilà.
Parce que du coup, il suscite effectivement un autre mouvement, en tout cas un mouvement particulier, parce que c'est vrai que quand on se retrouve à cet endroit-là, comme il y a cette colonne centrale, le spectateur, au fond, naturellement, enfin je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais fait une ronde.
C'est ça. Il agit un peu comme un axe. Maintenant, encore une fois, cette colonne ne serait pas là, en définitive, le mouvement des spectateurs ne serait pas beaucoup différent. Puisque si on se dit qu'il y aurait une personne qui aurait trouvé le centre de la chose, il ne pourrait pas le partager. Donc...
Vous avez parlé, Mélie Cohanian, des protocoles que vous mettiez en place. Et on parlait donc de cette idée de partir de l'idée A pour arriver éventuellement à une réalisation B. Mais j'imagine qu'il peut y avoir aussi une idée A qui arrive à une réalisation zéro. Est-ce qu'il a pu arriver que des protocoles ne soient pas réalisables ?
Pas réellement, mais c'est ce qui vient de m'arriver. Donc c'est la première fois. C'est-à-dire qu'il était mis en l'idée initiale du plan séquence, donc qui se joue là-haut, devait être réalisée en une seule et même fois. Malheureusement, malgré qu'on l'ait vécu, qu'on l'ait ressenti, qu'on pensait l'avoir, deux minutes après la fin du tournage et la félicitation des uns et des autres entre nous, on va dire, j'apprends qu'effectivement une des caméras s'est arrêtée à la 43e minute. Bon. Ben, on peut se dire à ce moment-là que c'est raté, on peut dire que c'est ce que j'ai dit. J'ai montré ma déception, ma colère, tout ce que vous voulez, mais ça ne change rien. Donc c'est pas ça l'idée, c'est qu'effectivement, il y a eu une fêlure, comme on peut l'appeler, un accident, qui est pas dû à notre bon vouloir, bon savoir, mais bon, voilà, qui dépend d'un outil technologique qui a été faillible. Et de là, ben, il faut tout remettre en question, une conception qui était quand même fondamentale à mon sens, de la pertinence de cette expérience, c'était la continuité. Donc j'ai dû accepter la discontinuité.
Ça veut dire qu'il y a des points de montage?
Il y a malheureusement 4 points de montage, dont je suis pas fier. Mais à la fois, il y a 4 points cardinaux, donc je pourrais presque les nommer nord, sud, est, ouest, et pour finir, réussir à trouver une cohérence là-dedans, et d'accepter, de toute façon, l'accident a été toujours partie prenante de mon travail, que l'idée de la perte, comme je l'énonce dans le texte initial, en introduction, est fondamentale, que par rapport à ce sujet-là, d'autant plus, donc je vais pas dire accident welcome, mais il faut bien vivre avec, donc c'est la vie, c'est la vie.
On évoquait tout à l'heure la possibilité de la question du progrès. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, disons en 20-25 ans de pratique. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes attentif. Est-ce que ça peut passer par la critique? En tout cas, si, question du progrès il y a. Est-ce que ça peut passer par la critique, par la réception critique publique de votre œuvre? Est-ce qu'il a pu arriver qu'il y ait un impact réel sur votre travail, Mélie Cohanian?
J'ai pas compris.
La question ?
Ouais, pardon. Non, sur le progrès, entre le progrès, l'impact de quoi sur quoi ?
De la critique, de manière générale. En fait, qui était votre rapport à la réception critique,
d'accord.
Ou soit à la réception publique, soit à la réception critique,
d'accord,
de votre œuvre.
Comment dire ? On n'est jamais insensible, ce serait sot de le penser, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Tant qu'elle n'est pas constructive et positive.
Je ne parlais évidemment que de celle qui était constructive.
D'accord, bah alors celle-là, non, elle est plus que la bienvenue, et je la provoque et je la recherche. Et j'ai parlé récemment de plus trop savoir à qui on s'adressait, et c'était une des questions un peu vraiment importantes des deux dernières années en tant que réflexion, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Nous, on ne sait plus trop, on est un peu perdus. L'audience change, le monde change, on n'a plus trop de feedback très direct avec les gens. Il y a très peu de lieux en fait de réflexion, de digestion des œuvres. On est dans un moment très consumériste de la notion d'événement, même plus que de la notion d'œuvre qui les habite. Donc on parle facilement des événements, mais alors très peu réellement des œuvres. Et si c'est juste pour entendre « c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau », c'est vrai que ça ne me suffit pas.
On parlait de votre père, Raja Kohanian, tout à l'heure. Rapidement, vous qui avez bâti une œuvre, Mehdi Kohanian, en dette avec peut-être l'idée de la transmission, mais en tout cas celle de la mémoire, ça c'est sûr. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec votre propre postérité ? Je sais que vous allez me dire que vous n'aimez pas ce mot, etc., etc. C'est comme la vocation.
C'est bizarre, il y a une famille de mots, effectivement.
Ouais. Parce que Yasmina Reza, à votre place, ouais. L'écrivaine, disait qu'elle pensait que c'était une affaire d'homme.
Je lui laisse penser ce qu'elle veut penser. Non, je ne pense pas comme ça, mais si je pense plutôt à la...
En tout cas, à ce qui reste. Hein.
Voilà, qu'est-ce qui est une œuvre d'art et en quoi, effectivement, elle serait différente d'un autre acte créatif qui ne serait pas basé que sur l'idée existentielle quasiment de créer quelque chose. Un objet qui reste et qui résiste en fait à sa propre époque et qui traverse le temps et l'est pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des gens qui en auront pris soin déjà, des attentions qui seront accordées à telle ou telle pratique ou objet. Je pense que c'est fascinant parce que je pense que c'est comme ça que j'ai compris le temps civilisationnel dans lequel on s'inscrit, le temps historique, le temps social, le temps politique. Je pense que je l'ai plus compris par la précision de certains à essayer de le nommer quand ils le traversent, à en laisser une trace. Voilà, je pense que la trace est la chose qui permet en fait à ce qu'il y ait une idée d'humain. Autrement, il n'y aurait pas d'idée d'humain.
C'est sur ces mots qu'on va s'arrêter, Mehdi Kohanian. Merci à vous d'avoir participé à cette masterclass et d'en avoir enrichi la collection. Merci.
C'était la masterclass de Mehlik Ohanian avec Manou Farine. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchan Djergaillan.